11h04, bienvenue dans Trudeau Landry 25226 pour nous joindre. On va prendre quelques secondes pour regarder le bilan quotidien de la COVID-19. On annonce aujourd'hui 1577 cas supplémentaires pour un total de 153 176 depuis le début de la pandémie. 22 décès supplémentaires qui ont été déclarés, 40 hospitalisations supplémentaires. On parle de 88 entrées et de 48 sorties, mais donc le résultat, c'est 40 personnes de plus à l'hôpital, ce qui m'apparaît élevé. Faut jamais perdre de vue que tout ce qu'on fait, c'est pour éviter que les hôpitaux débordent. Donc voilà, c'est ce qu'on a pour l'instant. On va peut-être regarder tantôt aussi la répartition régionale, mais en général, encore une journée difficile au niveau des bilans avec 1577. Un bilan duquel l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, ne fait pas partie, même si
Québec,
il est atteint
non.
de la COVID. Il n'est pas dans le bilan québécois. Il va peut-être être dans le bilan de... Je pense que c'est dans le secteur de Washington qu'il aurait peut-être été hospitalisé. Puis peut-être pour ceux qui suivent moins ça, sachez que l'ancien maire de New York, M. Giuliani, celui qu'on avait surnommé le maire de l'Amérique à l'époque du 11 septembre, il est l'avocat personnel de Donald Trump. Donc, il est dans l'entourage, si vous voulez, dans la garde rapprochée du président américain Donald Trump. Et on a appris en fin de semaine qu'il avait été diagnostiqué à la COVID-19, diagnostic positif. On va parler de tout ça avec notre collègue, évidemment, qu'on apprécie, très content de retrouver Raphaël Jacob. Salut, Raphaël!
Salut, messieurs!
Comment vas-tu?
Ça va, pas pire. Vous autres, la fin de semaine?
Ouais,
trop froid, trop gris.
La neige dans l'Est du Québec, mon cher Raphaël. Parle-nous de Rudolph Giuliani et de l'entourage de Donald Trump.
Vous commencez. Écoute, Giuliani, c'est drôle parce que on s'en parle quand même depuis quelques semaines. Puis d'ailleurs, si je me trompe pas, c'était la semaine dernière qu'on se disait à quel point c'était une chute. Écoute, comme je pense qu'on en a peu vu, honnêtement, là, de nos vivants, là, d'une figure presque titanesque de la scène politique américaine comme maire de New York, qui a fait deux mandats. Puis, évidemment, qui avait été vu comme un héros national suite aux événements du 11 septembre. Puis, qui s'est lui-même lancé dans une course présidentielle en 2008. On l'oublie, mais Giuliani avait lui-même été candidat présidentiel il y a un peu plus de 10 ans. Et depuis son arrivée dans l'orbite politique de Donald Trump comme candidat, puis surtout comme président, au niveau de, plus que sa réputation, mais presque son intégrité personnelle, c'était une espèce de descente aux enfers. Puis ce qu'on voit depuis l'élection du 3 novembre, écoute, je pense que c'est ça parle de soi-même. Le diagnostic de la COVID-19, évidemment, ça va alimenter les manchettes pendant quelques heures, quelques jours, mais c'est un petit peu juste la cerise sur le sundae pour le type.
Et le président Trump qui a réagi et se sert évidemment de ça encore une fois pour rappeler que l'élection est volée et tout ça et tout ça.
Mais écoute, le président Trump a donné j'imagine on peut appeler ça un discours électoral, là, dans le sens où samedi soir, il était en Géorgie pour parler à la fois de l'élection du 3 novembre dernier et de l'élection sénatoriale, des élections sénatoriales qui s'en venaient dans cet état-là dans à peu près un mois jour pour jour, c'est le 5 janvier prochain. Et en fait, il a pris presque plus de temps à parler de l'élection qui, selon lui, avait été volée que de l'élection qui s'en venait. Puis ça illustre à quel point, là, on se parle de Giuliani, on pourrait se parler de l'ensemble du Parti républicain qui est vraiment pris dans un étau parce que, d'un côté, le chef, si on veut, le leader du parti, continue à parler d'élections truquées, que le système est truqué, que les votes illégaux sont comptés, que les votes légaux sont pas tous comptés. Puis en même temps, on essaie de faire sortir les gens pour qu'ils votent à nouveau dans une autre élection. Il y a une espèce de dissonance cognitive. Ça fonctionne pas. Pourquoi vous iriez voter si vous êtes convaincu que le système est truqué? Et donc, on a eu cette espèce de gros rallye-là samedi soir. Puis en fin de semaine aussi, justement, on avait un débat pour une des deux cours sénatoriales en Géorgie qu'il y a eu dans un mois. Puis il y a eu un moment, je pense, qui symbolise toute la dynamique présentement à laquelle est confronté le Parti républicain. C'est-à-dire que le candidat démocrate pour le siège au Sénat en question a demandé à la candidate républicaine oui ou non. C'est une réponse à oui ou non. Est-ce que Donald Trump a gagné l'élection présidentielle du 3 novembre dernier? La réponse de la sénatrice républicaine, je la cite, a commencé par « Vous savez, quand on répond par « Vous savez », c'est parce qu'on ne sait pas quoi répondre. » Alors que c'est une question à une réponse très simple, et la réponse, c'est oui, ben c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, pour ce qui est de la Géorgie, l'enjeu n'est pas banal, là, Raphaël. Là. C'est le contrôle du Sénat qui est en jeu là-dedans. Là.
Et ça aussi, c'est ça qui est remarquable. Ça aussi, ça illustre à quel point les républicains sont coincés, parce que effectivement, si les démocrates remportent les deux sièges qui sont en jeu, ils vont reprendre le contrôle du Sénat. Les républicains conservent au moins un de ces deux sièges-là, ou les deux, conservent leur majorité. Et où ça devient donc problématique pour l'argumentaire des républicains, c'est que d'un côté de la bouche, ils disent il faut absolument que vous sortiez voter, que vous protégiez notre majorité, parce que c'est la seule chose qui va tenir, ça va être la seule résistance qu'on va avoir contre les démocrates de garder notre majorité au Sénat. Ce qui, évidemment, amène la question suivante, c'est-à-dire, OK, ben ça veut dire que Donald Trump a perdu l'élection, donc. Mmh. Et là, évidemment, on peut comme pas répondre. T'sais, fait que c'est insoutenable, c'est intenable comme tension. Et le Washington Post, aussi pendant la fin de semaine, faisait une espèce de recensement. T'sais, on arrive en même temps, c'est pas vraiment drôle, là, sur les quoi? Les un peu plus de 200 élus républicains au Congrès des États-Unis, il y en a moins de 30 sur à peu près 200, moins de 30 qui, depuis le dernier mois, sont sortis sans équivoque publiquement pour reconnaître la victoire de Joe Biden. Et c'est fou quand même, ouais, là. Ouais, ouais. Moins de 30 sur 200 pour reconnaître quelque chose qui est évident.
Mais dis-moi, Raphaël, là, dans le cadre de ces deux élections-là en Géorgie, est-ce que le président est vu par certains républicains, que ce soit de façon formelle ou informelle, là, comme étant un canard boiteux, le fameux lame duck, parce que dans les faits, c'est un président qui vient d'être battu dans une élection, qui n'est pas capable de reconnaître sa défaite, et là, il s'en va en Géorgie pour faire, tu l'as dit, une espèce de rallye électorale pour fouetter les troupes. Y a-tu du monde qui dise, ouais, tu sais, merci, mais non merci, là, on n'est pas sûr qu'on a besoin de toi?
Ben oui et non, parce que c'est un canard boiteux dans la mesure où il s'en va dans à peu près un mois. C'est un canard boiteux, pas vraiment quand on pense qu'il peut revenir dans 4 ans. C'est ça aussi, là, c'est que normalement quand un président américain se fait battre, pensez aux derniers qui se sont fait battre, pensez à Carter, pensez à Bush, c'était fini, là, c'était la fin de la ligne. Oui. Là, une autre affaire qu'on apprenait pendant la fin de semaine, comme quoi on a eu un week-end mouvementé aux États-Unis, on apprenait que ça semble concrétiser de plus en plus. La Maison-Blanche, je veux pas le confirmer, mais on serait vraiment, en bon français, stické présentement là sur l'idée d'utiliser la journée du 20 janvier prochain, la journée de la sermentation de Joe Biden, pour tenir justement un grand rallye pour Donald Trump et peut-être annoncer, dès le 20 janvier 2021, une candidature pour 2024. Puis s'il y en a qui pensent que j'exagère ou que j'invente quelque chose, non, c'est vraiment ça qu'on semble être en train de préparer à l'interne. Et donc, si c'est le cas, ça répond à ta question, Joe. Il n'y a pas vraiment de candidats républicains qui présentement sont à l'aise de complètement écarter Donald Trump, parce qu'on se dit, ce type-là peut carrément rester le leader du parti bien au-delà du 20 janvier. Et gardez aussi ceci en tête, gardez toujours ceci en tête. Il a reçu plus de 74 millions de votes. On ne veut pas s'antagoniser ces électeurs dont on a besoin du côté républicain pour gagner, que ce soit des courses au Sénat, à la Chambre, ou à peu près n'importe quel autre poste élu à la grandeur des États-Unis. Il y a ça aussi à garder en tête,
là. Mais ça, ce à quoi tu fais référence, là, on parlait en fin de semaine, Raphaël, d'une espèce de on dit « made for TV », une espèce de show télévisé avec le dernier vol de Air Force One en Floride.
Ouais.
Et c'est là qu'il y aurait le rallye pendant que Joe Biden prête serment. Ça, je m'excuse, il n'y a pas d'autre mot que « loser ». Moi, je trouve ça terriblement « loser » comme façon de faire.
En fait, je te soumettrais ceci, Jérôme, sans vouloir t'ostiner. Pour moi, c'est plus que « loser », c'est antidémocratique. Là.
Ouais,
c'est que c'est pas juste pour reconnaître que t'as perdu, c'est de pas reconnaître que t'as perdu une élection dans une démocratie. Fait que c'est pire que « loser ». C'est t'en prendre au fondement même de la démocratie. Tu sais, c'est un scénario qu'on s'évoque ensemble à l'émission depuis plusieurs semaines. Maintenant, la possibilité que Trump n'assiste pas à la sermentation, ouais, là, ça semble pratiquement être un fait accompli qu'il n'y assistera pas. Ce qui, en soi, ne peut pas être accepté comme simplement normal. C'est tellement une transgression fondamentale des normes puis des valeurs démocratiques américaines. Mais que là, la seule chose, entre guillemets, qui reste à déterminer, c'est qu'est-ce que le président va faire, le président sortant va faire plus tôt qu'assister à la sermentation de l'homme qui l'a dûment battu. Là.
C'est drôle parce qu'on parle très peu, probablement pas assez, de celui qui sera assermenté président le 20 janvier prochain, Joe Biden. Comment il va? Bon, on voit des noms qui continuent à circuler, des nominations qui sont faites pour son futur cabinet, mais lui, comment il va? On n'a pas eu l'occasion d'aborder ensemble le fait que là, on parlait de canon boiteux. Là, on a un président élu boiteux parce que c'est cassé un pied, sorti de l'hôpital en boitant avec sa bottine. Tu sais, lui qui a besoin de montrer l'image d'une personne qui va être assez en forme pour être président et tout ça, je suis pas certain que ça l'aide, ça, là.
On s'entend, tu sais. Disons que si c'était arrivé avant l'élection, ça aurait pas mal joué dans la caricature que Trump en faisait.
Ouais.
Sleepy Joe, le type est pas ce qu'il faut pour être président. Tu sais, la présidence, on s'en a parlé à l'émission, tu sais, c'est présidence américaine, c'est plus que une position idéologique ou position politique. Il y a une grosse connotation symbolique à ça. L'image, la rhétorique du président est importante. Et donc, son image aussi. Puis de voir Joe Biden sortir de la sorte de l'hôpital, je veux dire, dans le contexte où la démocratie américaine carrément semble chancelante, effectivement, c'était pas une projection de force. Ce qui est également intéressant, puis ce qui va être intéressant, puis honnêtement, je prétends pas avoir de réponse présentement à cette question-là, c'est de savoir, surtout si Donald Trump utilise la journée de la sermentation là, dans à peu près un mois pour annoncer qu'il se représente. Donc, il reste une bête politique là, dans l'arène sans aucun répit. Est-ce que Joe Biden va commencer, une fois qu'il est président, à aller chercher au moins plus d'attention médiatique que Donald Trump, ou même une fois sorti de la Maison-Blanche, Trump va davantage faire parler de lui que Joe Biden? Sincèrement, j'ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il y a une énorme partie de la survie politique à plus long terme de Trump qui va être déterminée par la réponse à cette question-là. C'est-à-dire, à quel point est-ce qu'on continue à lui donner de l'oxygène dans les médias américains? Parce que, soyons très francs, là, très clairs, ce type-là, je pense que c'est très difficile de concevoir un scénario dans lequel il aurait émergé avec l'investiture du Parti républicain en 2016 s'il n'était pas justement allé chercher une quantité aussi disproportionnée d'attention médiatique pendant les primaires. Est-ce que ça va être ça pour les 4 prochaines années alors qu'il n'est plus président? Je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Biden a promis, en fait, de ne pas être un président dont on parlera tous les jours. Force est de constater que comme président élu, il tient sa parole.
Ouais,
ça marche.
Ben, c'est ça. Puis l'enjeu aussi, c'est que la réalité, c'est que Trump, il est très payant pour les médias.
Mais oui, c'est ça.
Aussi, il rafle. C'est ça l'affaire, c'est que les médias vont vouloir continuer de parler de lui puis de ses sparages, comme on dit. Parce qu'on a beau nous vendre, tu sais, je regardais ça en fin de semaine, beaucoup d'observateurs nous disent que ce qu'ils vont nous vendre là, du côté démocrate à la Maison-Blanche, ça va être le tandem Biden-Harris. Ouais. Mais même à ça, c'est jamais aussi vendeur pour les médias que Trump qui pète des coches puis Trump qui dit des niaiseries, là.
Mais c'est ça qui est drôle. Juste avant de te laisser, je renchéris sur ce que Jérôme disait. La relation Trump-média est à quelque part une des relations les plus hypocrites.
Absolument.
De l'histoire. Puis c'est une relation amour-haine. C'est-à-dire que Trump déteste les médias, mais carbure à voir l'attention que les médias lui donnent.
Oui.
Et les médias détestent Trump, mais sans lui, ils vont parler de quoi? Tu sais, c'est ça qui est paradoxal.
Ben écoute, tu m'as non seulement devancé, tu m'as enlevé tous les mots de la bouche, Joe. Fait que j'ai rien acheté. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment ça. Et c'est ce qu'on observe, en fait, depuis justement les primaires de 2016. Donc, Donald Trump a dit à plusieurs reprises depuis sa première campagne que sans lui, les médias arriveraient plus. Puis gardons en tête que des médias comme le New York Times, dont Trump s'est tellement payé la tête, allaient très mal financièrement là, avant l'arrivée de Donald Trump. Donc, est-ce que c'est juste le fait que Trump soit arrivé que, disons, ils ont pu reprendre un peu de galon? Je sais pas. Mais disons qu'il y a une corrélation qui est assez dure à manquer. Donc, effectivement, il est irrésistible. Puis, on se parle de plus en plus d'une possible dynastie Trump, là, son fils, sa bru, bon, qui pourrait se lancer aussi en politique. Il suit un petit peu le même modèle que son père aussi. Ils vont regarder Donald Trump junior donner des discours, donner des entrevues. Je veux dire, c'est pas exactement une copie conforme de son père, mais en même temps, ce sont des propos irrévérencieux, ce sont des lignes d'attaque hyper personnelles, ce sont des propos souvent choquants, controversés, etc. C'est le même style fondamental de politique, de politicien, et ça aussi, c'est un modèle, encore une fois, qui est vendeur pour les médias. Autrement dit, si Trump décide finalement de ne pas se représenter. C'est ce qui me surprendrait, là, qu'il quitte là, du jour au lendemain complètement l'arène politique, mais disons qu'il faisait ça. Mais qu'il laissait plutôt la place aux autres membres de sa famille qui, eux, veulent un rôle plus actif en politique. Je suis loin d'être certain que les médias vont fermer la switch et dire ben, c'est fini, on a vécu un épisode Trump, ça a duré 4-5 ans, on parle plus de ça. C'est tellement rentable comme modèle et encore une fois, il n'y a pas juste le principal intéressé qui semble être intéressé à continuer à faire de la politique comme ça.
Hey, merci beaucoup, Raphaël. On s'en parle bientôt.
Good. Bye-bye.
Bye, Raphaël Jacob, la chère Houle d'Endurant. Toujours agréable de jaser politique américaine avec lui. Mais c'est ça, Joe. Tu sais, c'est que Trump, il arrête pas de cracher ses médias, mais il a tellement besoin d'eux autres.
Ah, oui.
Qui l'ont bâti. Les médias ont bâti le phénomène Trump. Puis, tu sais, dans le fond, Batman a toujours besoin du Joker aussi. T'as besoin de ton méchant là pour exister, si tu veux aussi, là,
exact.
Pour avoir des fans.
Exact.
C'est ça qu'on a vu là.
Ivanka Trump qui pendant notre conversation a tweeté une photo
écoutez?
De oui, elle dit, okay. Hello to Jonathan and Jerome and Raphael. Oh,
ouais.
Elle a tweeté une photo qui date de juillet 2020 de son père, donc Donald Trump, qui est positionné devant le Mount Rushmore. De façon à ce que sa face ait l'air d'être le prochain visage de président qui serait sculpté le Mount Rushmore.
Il y en a qui avaient dit à un moment donné aussi que lui se voyait sur le Mount Rushmore pour vrai. Là.
Ben, il serait, d'après moi, il pourrait même financer ça. Là.
Ouais, mais je pense que c'était pas sérieux.
Ah, mais tu penses que dans son fin fond, il se voit pas là?
Je pense qu'il avait précisé que non, c'était pas une vraie idée qu'il avait eue là-dessus. Là.
Non, mais je suis sûr que si quelqu'un voulait le faire...
Il s'opposerait pas. Pas sûr qu'il s'opposerait nécessairement à ça. OK, 11h19, minutes. On va s'arrêter quelques instants, puis restez là. Il y a beaucoup de choses à venir, notamment à compter de 11h30. On va aller en direct. On l'a pas fait souvent là pour Justin Trudeau, mais on va le faire dans les prochaines minutes. On va aller au point de presse du premier ministre du Canada parce qu'il sera question de vaccination. Et on vous rappelle ce que le collègue de la presse, Joël-Denis Bellavance, a sorti. C'est qu'on commencerait peut-être à administrer des doses avant la fin décembre. C'est ça les termes qu'il a employés? C'est ça qu'il a annoncé?
Ben, c'est que les premières doses de Pfizer seraient reçues avant la fin décembre. Reçu. Donc là, on verra, j'imagine, les provinces pourront s'adapter en fonction de ça pour savoir qui va vacciner quand et comment.
C'est ça. Mais on sait que c'est une annonce importante qui va avoir lieu dans les prochaines minutes avec le premier ministre Trudeau. Bougez pas!